Le pouvoir de l'Alliance, première partie. Nous sommes David et Sherry Cardé et nous sommes ici pour partager la bénédiction que ce ministère a été dans notre vie. Nous sommes impliqués dans ce domaine depuis 28 ans maintenant et nous avons vu la bénédiction qu'il est devenu dans de nombreux mariages à travers le monde.
Nous sommes mariés depuis près de 38 ans et, comme David l'a dit, nous exerçons notre ministère dans ce merveilleux ministère de deux enseignants égaux mariés pour la vie depuis 28 ans. Nous sommes des couples qui viennent à ce ministère. Dieu nous a bénis, nous a enseignés, nous a rencontrés là où nous sommes, et puis certains d'entre nous sont appelés à faire demi-tour et à être entraînés à donner cela. C'est le désir de nos cœurs. Et nous voulons que vous sachiez qu'en tant que couple marié, vous serez absolument grandement bénis par ces 12 leçons et tous les merveilleux plans que Dieu a pour votre mariage.
Qu'est-ce qu'une alliance ? Permettez-moi de commencer par l'histoire. Pensez à un immense gratte-ciel. Nous avons entendu cette histoire il y a un certain temps. Et tout d'un coup, un jour, au 42e étage de ce gratte-ciel, une énorme fissure s'est produite. Le directeur général du gratte-ciel a immédiatement appelé l'architecte et l'ingénieur et leur a dit qu'il fallait venir ici. Nous avons une énorme fissure au 42e étage. Et il a attendu et finalement il a appelé à la réception et a dit, « Est-ce que cet ingénieur est déjà arrivé ici ?» Il a dit, « Oh oui, mais il est descendu au sous-sol. » Ce directeur général du gratte-ciel est descendu dans l'ascenseur, est arrivé au sous-sol et a immédiatement commencé à réprimander cet ingénieur. Dire, « Je vous ai dit que nous avions une fissure au 42e étage. Qu'est-ce que tu fais là-bas, au sous-sol ? » L'ingénieur le regarda très calmement. Dire, « Oui, vous avez une fissure au 42e étage. Je comprends cela. Mais le problème est là, dans les fondations. L'alliance est le seul fondement sur lequel le mariage est construit. Si vous avez déjà acheté une maison, vous avez signé une pile de papier à peu près si épaisse, si vous avez acheté une voiture, la pile de papier est à peu près de la même taille. Carte de crédit ? Oh mon Dieu, pour l'amour du ciel ! Oui, nous sommes tous très conscients de la signature de contrat, mais cela n'a pas sa place dans le mariage. Un contrat est basé sur le respect des termes du contrat. Si le contrat est rompu, vous êtes libéré de l'accord. Et c'est la mentalité que nous avons adoptée dans le mariage. Et c'est pourquoi le divorce est un problème si énorme aujourd'hui qui a causé des problèmes à travers les générations ici. Et donc nous voulons changer notre mentalité de penser d'un contrat à penser à une alliance.
Une alliance a des promesses et elle a des conditions. Donc, les promesses sont « Je prends un engagement envers vous ». Les conditions détaillent ensuite ce que cela signifie et comment nous allons y répondre. Combien de temps vais-je le garder ? Eh bien, je ne pense pas avoir jamais assisté à une cérémonie de mariage où quelqu'un a dit que je jurais d'être votre conjoint jusqu'à la fin de l'année. C'est une mauvaise mentalité. Encore une fois, il y a des années, quelqu'un disait « Je vous donne ma parole » et vous saviez qu'il le pensait. Dans Nombre, chapitre 30, verset 2, il est dit « Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou s'il prête serment de s'engager par un accord, il ne manquera pas à sa parole. Il fera selon tout ce qui sort de sa bouche. » Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'endroits où l'on parle d'alliance de sel, que les gens ont fait des alliances de sel les uns avec les autres. En fait, ils portaient la poche de sur le côté. Et c'était pour montrer le sérieux de l'accord qu'ils étaient en train de conclure. Ils avaient donc ces petites pochettes en tissu qui étaient attachées à leur ceinture et quand ils allaient conclure cet accord solennel et contraignant. Ils prenaient chacun leur poche qui contenait du sel, et je prenais du sel de ma poche et je le mettais dans celle de David, et moi, il faisait la même chose. Maintenant, quand vous pensez au mariage, comment trouvez-vous votre propre sel une fois qu'il est mélangé ? Comment enlever son propre sel et le retirer à nouveau ? C'est ainsi que Dieu voit le mariage. Vous devenez un dans l'alliance. Ils ne peuvent pas vraiment être séparés à nouveau. Il y a des années, nous vivions dans une maison d'environ un acre et demi et c'était joli. Des collines vallonnées et une belle herbe luxuriante. Nous avons décidé de faire une promenade un soir et de monter sur la partie supérieure de la colline et d'avoir juste un peu de temps à passer ensemble et à prier. Nous sommes donc allés nous promener et il y avait cette zone où il y avait des mauvaises herbes et vous savez, le genre de mauvaises herbes, je veux dire où cela commence ici et puis elle pousse. Et nous avons dit, « Oh mon Dieu, nous ne savions pas que ces mauvaises herbes étaient là. » Alors David a tout de suite dit, « Je vais acheter du désherbant demain. Nous allons sortir. » Nous allons déterrer ces mauvaises herbes et les retirer de notre gazon. Nous avons donc marché un peu plus loin et nous sommes tombés sur une zone qui contenait du gravier et des rochers. Eh bien, Nous ne pouvions pas voir cela depuis la route. Alors on s'est dit qu'on allait prendre la brouette et qu'il allait la ratisser et qu'on allait se débarrasser de toutes ces pierres. Eh bien, nous sommes allés jusqu'en haut sur la colline arrière où nous allions nous asseoir et nous avons trouvé cette grande zone dénudée là-haut. Nous n'avions aucune idée qu'il était là. Rien n'y poussait. Notre réponse immédiate a été d'aller acheter des semences de gazon et de l'engrais et de faire en sorte que cela ait l'air aussi beau que le reste du pays. Et quand nous eûmes fini de faire cela, le Seigneur parla à mon cœur. Maintenant, dans Jean, la parole dit que Jésus parle à ses brebis. Mes brebis entendent ma voix. Donc, si nous écoutons vraiment, nous pouvons entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. Dieu a parlé à mon cœur et il a dit : Eh bien, avez-vous vu le principe de l'alliance dont je vous parle dans votre pays ? J'ai dit : Non, de quoi parliez-vous ? Et il a dit : Eh bien, quand vous avez vu les mauvaises herbes, vous avez immédiatement compris comment vous en débarrasser. Quand vous avez vu les rochers, vous alliez vous en occuper. Quand vous avez vu le sol nu, vous alliez y mettre de l'herbe. Le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui dans leur mariage ont des mauvaises herbes qui poussent. Où ils ont des zones rocheuses, certains ont des zones dénudées où il n'y a rien qui pousse du tout dans cette zone. Mais vous n'avez pas dit que c'était tout, je suis sorti d'ici. Nous allons appeler un agent foncier demain. Nous allons mettre un panneau à vendre dans la cour avant. Voilà. Nous nous débarrassons de cette maison. Vous avez commencé à parler de ce que vous alliez faire en tant que couple pour nettoyer ces zones et rendre votre gazon agréable. C'est la mentalité de l'alliance par rapport à la mentalité contractuelle. Des problèmes vont donc continuer à se poser, croyez-moi. Ils continueront à revenir, mais si vous êtes ensemble dans cela, vous les résolvez, vous ne vous contentez pas de vous en aller et d'y mettre fin. Un partenaire d'alliance ne se tourne pas vers l'autre partenaire pour déterminer la force de l'alliance. Vous pouvez voir la profondeur de ce que l'alliance signifie pour Dieu en parlant de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a dit dans Genèse 17:4 : Quant à moi, voici, mon alliance est avec vous, et vous serez le père d'un grand nombre de nations. Quelle promesse incroyable ! Dieu lui a donc promis que par lui et Isaac, le fils de Sarah, tout cela arriverait. Cette promesse allait se concrétiser. Eh bien, comme les humains, nous pouvons tous le faire. Ils n'ont pas vu cela se produire tout de suite, et ils se sont impatientés. Sarah avait dépassé l'âge de procréer, donc ça allait être un miracle de toute façon. Et alors ils se sont impatientés, ont pris les choses en main, et Abraham a fini par avoir un enfant avec Agar, la servante de Sarah. Et donc vous penseriez, « Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant ? Qu'est-ce que Dieu va faire avec cela ? Il a gâché toute l'alliance. » Mais Dieu n'a pas dit que je suis en alliance avec toi parce que tu as accompli une performance parfaite. Abraham a fait une grosse erreur. Mais Dieu était fidèle. Il a montré sa fidélité à l'alliance qu'il avait conclue. Dieu continua donc à faire alliance avec Abraham, comme il l'avait promis. Et finalement, le miracle s'est produit et Sarah a eu Isaac. Ainsi, le Seigneur n'a pas tenu sa part de l'alliance parce qu'Abraham l'a fait. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une alliance. Il l'a honoré parce qu'il avait fait une promesse d'alliance. Prenez quelques minutes maintenant et discutez de cette question. Lorsque vous vous êtes marié, pensiez-vous alliance ou contrat ?
Parlons ici de deux types différents d'alliances, une alliance de Dieu et une alliance de personnes. Dans la Bible, il y a 8 alliances différentes entre Dieu et les gens qui s'y trouvent. Il y en a 8. Et c'est drôle, la toute première fois que j'ai suivi ce cours, j'ai étudié les 8 alliances différentes. Et ce que Dieu m'a vraiment inculqué, c'est le fait que ce n'est jamais Dieu qui a rompu l'alliance. L'homme n'a jamais été à la hauteur. Vous savez, nous allons en parler dans la prochaine leçon. Ne manquez pas celui-là. Il est donc important de savoir que Dieu respecte et fait des alliances. Mon Dieu, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais seuls. Voici un excellent passage de l'Ésaïe 54:10. Car les montagnes s'en iront, et les collines seront enlevées, mais ma bonté ne s'éloignera pas de vous, et mon alliance de paix ne sera pas enlevée. Dit le Seigneur qui a pitié de vous. Vous voyez cette promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu et nous devons comprendre cela et cela au fur et à mesure que nous grandissons dans la compréhension que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, nous diriger et nous aider dans nos voies. Il va vous aider. Absolument. Il vous le permet. Il vous fortifie pour que vous gardiez cette alliance. Nous avons ce type d'alliance et l'autre type est une alliance de personne à personne. Je vais vous donner un exemple biblique. Extrait de Samuel, chapitre 18. C'est l'alliance que Jonathan et David ont faite ensemble. C'est drôle, je lisais ça et j'ai réalisé, vous savez, juste avant que Jonathan ne veuille devenir un partenaire d'alliance avec David, c'est à ce moment-là que David a tué Goliath. Il y a toute une armée de gens et un homme s'est levé et a dit, « Je peux le faire. Ne voudriez-vous pas vous rapprocher de cette personne ?» Ça m'étouffe d'y penser. D'avoir une alliance avec un homme aussi puissant. Ce qu'il faisait, en ce temps-là, c'était de faire une alliance, c'était d'échanger des biens. Jonathan, parce qu'il était le fils du roi, lui donna un manteau qui était un symbole de la richesse du royaume. Ses vêtements, ses possessions et son épée étaient un symbole de force. La ceinture était un symbole de protection. En faisant cela, il disait « Vos ennemis sont maintenant mes ennemis. Nous allons nous battre ensemble dans ce domaine et je vais apprendre de vous parce que vous êtes un puissant guerrier pour le Seigneur. » Ils ont donc échangé ces objets ensemble et c'était ce que nous appellerions une alliance de personne à personne.
La Bible le dit très clairement. Dans Malachie 2h14, Dieu a écrit ceci à l'homme. C'est parce que le Seigneur agit comme témoin entre vous et la femme de votre jeunesse, parce que vous avez rompu la foi avec elle, bien qu'elle soit votre partenaire, l'épouse de votre alliance conjugale. Et dans Proverbe 2h17, ceci est écrit à la femme et il est dit qui a quitté le partenaire de sa jeunesse et a ignoré l'alliance qu'elle a faite devant Dieu. Ainsi, les Écritures indiquent très clairement, et il y en a d'autres, que Dieu considère le mariage comme une alliance. Une alliance est le plan de Dieu pour un homme et une femme. Nous ne l'avons pas imaginé. Nous n'avons pas pensé au mariage. Dieu a créé le mariage. C'est lui qui l'a imaginé. Nous acceptons donc le plan de Dieu lorsque nous nous marions, ce qui est absolument merveilleux. Et c'est comme si vous achetiez l'une des voitures les plus sophistiquées et les plus chères que vous ayez jamais imaginées dans votre esprit, puis que vous utilisiez un vieux manuel de camion pour essayer de la faire fonctionner en suivant ses instructions. Et vous vous demandez pourquoi cela ne fonctionne pas correctement. J'aimerais donc vous parler un instant des composantes de l'alliance du mariage. Souvent, les promesses que nous entendons lors d'une cérémonie de mariage sont d'honorer, de chérir, d'aimer, d'obéir. Les termes sont comme « pour le meilleur, pour le pire ». Comme David l'a dit, pour les plus riches ou les plus pauvres et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les vœux peuvent ressembler à ce que je veux ou à ce que je fais, ce qui montre que vous êtes sincère au sujet de la conclusion d'une alliance. Le livre de l'Ecclésiaste est intéressant. Dans le chapitre 5, il est dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux que de le faire et de le rompre. Dans le livre de Josué, chapitre 9 et 10, il y a une histoire impressionnante et puissante. Josué était l'homme que Dieu avait choisi pour amener le peuple dans la terre promise. C'était celui qu'il avait choisi. C'était un homme de Dieu puissant. Et c'est ainsi que Dieu a dit « Entrez et conquérez le pays. C'est votre terre promise. » Eh bien, les Gabaonites étaient l'un des peuples qu'ils étaient censés conquérir. Et ils avaient entendu parler de Josué et ils avaient entendu parler des gens, et ils avaient peur. Ils s'habillèrent donc avec de vieux vêtements déchirés, et ils apportèrent avec eux du vieux pain moisi. Et ils arrivèrent au camp de Josué. Et ils ont dit « Vous savez quoi? Nous sommes vos voisins. Nous venons d'une autre nation. Nous sommes vos voisins, et nous voulons faire alliance avec vous. » Et Josué était un homme très pieux. Mais c'était une fois où il n'a pas parlé au Seigneur. Il n'est pas allé au Seigneur. Et il s'est dit, « Wow, c'est une idée merveilleuse. Je vais faire cette alliance avec vous. » Après avoir fait l'alliance, il découvrit qu'ils étaient vraiment l'un des peuples qu'il était censé conquérir. Alors maintenant, il va vers le Seigneur et il dit, « Dieu, que dois-je faire ?» Et Dieu a dit, « Vous avez fait l'alliance, vous l'honorez. » À un moment donné, les Gabaonites vinrent à lui et lui dirent, « Au secours, il y a d'autres nations qui vont nous attaquer. Vous devez venir nous aider. Rappelez-vous que nous sommes dans l'alliance. » C'était assez longtemps après qu'ils eurent fait une alliance. Alors Josué alla trouver Dieu et lui dit, « Que dois-je faire ?» Et il a dit, « Oui. » Vous êtes dans l'alliance. Il faut aller les aider. Et c'est ainsi que Josué s'en alla. Dieu a fait en sorte que le soleil s'arrête et fasse pleuvoir des grêlons du ciel pour créer des miracles pour Josué. Pour aider son partenaire d'alliance. C'est le genre de Dieu que nous servons. Il est un Dieu qui pardonne, et il a fait la même chose avec Abraham et Sarah. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ne l'ont pas fait à la manière de Dieu, mais Dieu leur a été fidèle et leur a amené Isaac. Et donc nous devons comprendre à propos de l'alliance du mariage qu'elle apporte la mort à la vie indépendante. Ce n'est plus moi, moi, moi. C'est nous, nous, nous. Il s'agit de nous maintenant. Entrer dans une relation d'alliance signifie la mort d'une vie indépendante.
J'étais dans l'armée. J'ai passé la dernière année avec l'armée en Asie du Sud-Est quand le Vietnam se déroulait. J'ai donc été absent pendant quelques années. J'étais parti depuis longtemps. Et puis, après avoir rencontré Chérie, l'idée de ne pas vivre seulement pour moi-même ou, comme elle le disait, de mourir pour une vie indépendante était vraiment difficile parce que j'étais devenu assez solitaire. Et quand vous êtes assez solitaire, vous ne verbalisez pas beaucoup les choses. Vous avez tendance à tout garder enfermé à l'intérieur et à y penser. C'était donc tout un ajustement et c'est toujours un domaine sur lequel nous travaillons.
D'après 1 Corinthiens 7, 4, même nos corps sont donnés les uns aux autres. Tous nos biens, toutes nos richesses, tout est joint. Quand nous nous sommes mariés, j'avais pas mal d'argent à la banque. David venait d'acheter une voiture neuve à laquelle était rattachée une voiture. Eh bien, nous étions en alliance et quand nous nous sommes mariés, mes économies sont devenues l'argent de David et le paiement de la voiture de David est devenu le paiement de ma voiture. Et donc, vous savez, les deux ne font plus qu'un. Dans Éphésiens 5:31, il est dit que les deux ne font plus qu'un et que tout ce que nous avons maintenant nous appartient ensemble. Et si les couples ne comprennent pas cela, beaucoup de problèmes peuvent survenir à cause de cela. Vous direz des choses comme « C'est mon salaire. C'est l'argent que j'ai gagné ou c'est ta dette, c'est ton problème. » Ou s'il y a un héritage qui est reçu ou quelque chose comme ça, eh bien, cela m'appartient. Ce n'est pas une pensée d'alliance.
Les beaux-enfants font aussi partie de cette relation d'alliance et nous devons nous pencher là-dessus pendant une minute parce qu'il y a beaucoup d'orphelins et de beaux-enfants qui souffrent. Pensez-y. Jésus était un beau-fils. Avez-vous déjà pensé à cela? Même en tant que fils de Dieu, Jésus est resté sous les soins et la direction de ses parents terrestres, Joseph et Marie. Comme Chérie l'avait dit, elle s'était déjà mariée et elle avait adopté un fils. Et donc je l'ai rencontré quand Chérie et moi nous sommes mariés. Le fils avait 6 ans. Et donc je l'ai adopté aussi. Notre fils a 43 ans en ce moment, 43 ans. Il était à la maison il y a 1 an et demi et Chérie et lui regardait de vieilles photos. Il regarde ses vieilles photos et a commencé à les partager et surtout quand il avait environ 6 ans. Et il a dit « Je me souviens quand je rentrais de l'école et que tu étais à la maison. » Et j'ai levé les yeux vers toi et j'ai dit « Salut Dave, comment va ta journée ?»« Je vais bien », ai-je dit. « Tu sais quoi? Tu peux m'appeler papa. Tu m'appelles papa. Voici un homme de 43 ans. C'est sa mémoire. Il y a tellement d'enfants là-bas. Vous devez comprendre ce point. » Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et nous devons leur donner de l'amour et nous devons les accueillir et nous devons les appeler les nôtres parce qu'ils le sont. Prenez quelques minutes maintenant et discutez de toutes les choses que vous avez échangées lorsque vous avez contracté l'alliance du mariage. Y a-t-il quelque chose que vous tenez encore pour mien? Le pouvoir de l'alliance partie 3. Le plan de Dieu pour le mariage. Le plan de Dieu pour le mariage est incroyable. Dès le début. Si vous voulez comprendre cela, allez dans le livre de la Genèse, chapitres 1 et 2. Mais un passage clé que nous répéterons plus d'une fois dans ce cours est Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est donc ainsi que Dieu l'a voulu, dès le commencement. D'accord? Alors quelques pages en arrière, c'est dit. Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés à l'image de Dieu. Il les a créés, mâle et femelle. Il les a bénis et il leur a dit d'être féconds et de se multiplier. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les autres êtres vivants qui se meuvent sur la terre. Assez incroyable. Ainsi, lorsque nous entrons dans cette relation avec Dieu, nous avons une alliance avec le Seigneur ainsi qu'une alliance ici même en tant que mari et femme. Dans votre vie de couple, vous allez avoir des défis. Je suis sûr qu'Adam et Ève ont rencontré des situations difficiles. Ils avaient aussi des défis à relever tous les jours. Et ils avaient des choses à apprendre l'un sur l'autre. Et j'y ai souvent réfléchi. Pensez-y. Il suffit de retourner à la Genèse et de lire cela et de méditer sur ce qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden et d'y réfléchir. Passez le temps. Réfléchissez-y. J'aime réfléchir aux choses. J'aime réfléchir aux choses et en sortir avec une certaine compréhension de l'autre côté. Voici donc une autre grande écriture. Si nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Jérémie 32, 38 à 41. Et ceci est une promesse de Dieu, si vous êtes dans l'alliance avec lui. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix. C'est tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Pour qu'ils me craignent à jamais. La peur signifie qu'il est génial, vous savez? C'est un Seigneur formidable que nous servons. Pour leur bien et celui de leurs enfants. Gloire à Dieu. Nos enfants sont là-dedans. Et je ferai avec eux une alliance éternelle pour que je ne me détourne pas d'eux qui font le bien. Dieu va faire du bien pour vous. Quelle promesse! Il y a des promesses ici même dans la Bible. Mais je mettrai la crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous savez que Dieu est puissant. Je ne sais pas ce que je ferai sans lui. Nous lui demandons de l'aide tout le temps. Nous allons parler de la prière ensemble dans l'une de ses leçons. C'est une chose étonnante quand les deux se réunissent et cherchent le cœur de Dieu. Le Seigneur dit, « Oui, je me réjouirai d'eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Quelle promesse de la part du Seigneur! En grandissant, Jésus me manquait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que je suis allé à l'école du dimanche à l'église et que cela m'a manqué. Explique chérie. Je ne pense pas qu'il vous le donne, mais Jésus est la clé. Quand Jésus est venu sur la terre, il a marché comme un homme. Et quand Jésus est allé à la croix, nous avons entendu cette histoire, tout le monde a bien entendu. Il a payé le prix pour nos péchés et il est mort à notre place et a pris le châtiment que nous méritions. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il a établi une nouvelle alliance avec Dieu. Et ceci, c'est une alliance finale et durable, donc si vous vous repentez de votre péché, croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que vous êtes baptisé, alors vous pouvez entrer dans une relation d'alliance avec lui. Vous pouvez avoir une vie abondante à la fois maintenant et dans l'éternité. Vous aurez tellement plus de pouvoir et de force dans votre mariage et vous ferez des choses incroyables.
Adam et Ève avaient cette relation d'alliance étonnante et merveilleuse avec Dieu. C'était plus que tout ce que nous pouvions imaginer. Et quand ils ont péché, ils ont coupé cela et ils l'ont brisé. Ce sont eux qui sont sortis de l'alliance. Dieu n'a pas fait cela. Et donc, pour que l'humanité puisse entrer à nouveau dans l'alliance avec Dieu, quelqu'un qui était encore dans l'alliance avec Dieu devait prendre sa place et faire en sorte que cela se produise. Il n'y avait plus personne sur terre qui pouvait faire cela. Plus personne maintenant. Si nous devions penser de la façon dont les gens pensent aujourd'hui avec la mentalité contractuelle, si Dieu avait une mentalité contractuelle, et je suis très reconnaissant qu'il ne le fasse pas, il aurait dit, c'est tout, oubliez cela. Je vais juste faire autre chose. Je ne vais même plus m'embêter avec ça. Je sors d'ici. N'est-ce pas ce que font les gens? Mais Dieu est un homme qui fait l'alliance, qui garde l'alliance. C'est ainsi que Dieu a envoyé son seul Fils merveilleux, Jésus-Christ, sur la terre pour prendre la forme d'un homme afin qu'il meure et subisse le châtiment de notre péché. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour nous frayer un chemin afin que nous soyons dans l'alliance éternelle avec lui. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Et je pense que c'est la plus merveilleuse nouvelle que l'on puisse avoir. Jésus est le seul chemin vers une relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas travailler pour aller au ciel. Nous ne pouvons pas nous contenter d'essayer d'être de bonnes personnes. Ce n'est pas ce qu'est le plan de Dieu pour l'Alliance. Le plan de Dieu pour l'Alliance est qu'il a envoyé son précieux Fils mourir sur la croix pour nous afin que cela soit par Jésus-Christ. Nous pourrions avoir une alliance avec Dieu, et nous pourrions marcher dans cette alliance et, comme David l'a dit, être rachetés pour ce qu'Adam et Ève avaient avant la chute. Et dans Éphésiens 2, 12 et 13, il décrit ce qu'était la vie sans Jésus. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez séparés, vivant à l'écart de Christ, exclus de toute part en lui, complètement étrangers et proscrits des droits d'Israël en tant que nation et étrangers, sans aucune part dans les pactes sacrés des promesses messianiques, sans aucune connaissance des accords de Dieu, ni droit dans les accords de Dieu, ses alliances. Et vous n'aviez aucun espoir. Vous n'aviez aucune promesse. Vous étiez dans le monde sans Dieu. Oh, quelle triste pensée! Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois si loin parés par le sang versé de Jésus, vous avez été rapprochés. Quelle merveilleuse écriture! J'aime ce passage de l'écriture. Dieu est donc témoin de notre alliance et de nos vœux. Le jour où nous nous marions, que nous le connaissions ou non, il est tout autant un témoin et des personnes que nous invitons à la cérémonie. Parce que c'est Dieu qui a pensé au mariage et qui a dit que le mariage est une alliance, c'est le plan de Dieu. Dieu a été témoin de notre alliance le jour de notre mariage. Donc, Si aucun de nous n'est en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, alors il ne peut pas y participer activement. Il ne peut pas entrer et vraiment s'impliquer dans notre mariage pour nous aider à le transformer en ce qu'il veut qu'il soit. Ce qui est génial, c'est que dès que l'un de nous entre dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ, alors il peut entrer et devenir un partenaire d'alliance. Dans 1 Corinthiens 7:14, il est dit que le mari incroyant est sanctifié par la femme, et que la femme incroyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Donc, chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, il est dit que nous avons tous péché. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, et nous louons Dieu d'avoir Jésus comme Sauveur. J'ai aussi grandi à l'Église, comme David, mais ce n'est que lorsque j'étais un jeune adulte que je suis entré en relation avec Jésus personnellement et que je lui ai demandé d'être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois il y a près de 38 ans, David était vraiment dans la marijuana et des choses comme ça.
Dans les années 70, j'étais un hippie. Dans les années 80, j'étais alcoolique et j'ai connu Jésus en 1987.
J'ai trouvé que David était naturellement décontracté et facile à vivre. Et puis, quand ils ont commencé à faire des tests de dépistage de drogue, il y a des années, dans les années 80, David a dit « Oh, je ne peux plus faire ça, parce qu'il a toujours été un bon fournisseur et un travailleur acharné. » Il est donc passé au whisky. Eh bien, quand il est passé au whisky pour le choix de ce qu'il devait faire, il est devenu une personne très colérique et volatile. En même temps, j'étais pris dans le perfectionnisme et la peur et j'avais donc du mal à faire en sorte que tout soit parfait. David est hors de contrôle avec tout et nous étions comme un accident de train qui attendait de se produire et notre alliance a failli dérailler. 8 ans après le début de notre mariage, je me souviens d'une matinée. La nuit précédente avait été très difficile, avec David en colère et instable et moi qui essayais de m'occuper de lui et des enfants. Et le lendemain matin, David était parti au travail, les enfants étaient allés à l'école. J'étais debout devant le miroir de notre salle de bain avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Comment en suis-je arrivée là? Ce n'était pas censé être comme ça. C'était censé être différent. Et ce fut donc l'un des moments les plus profonds de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir une relation profonde et intime avec le Seigneur. J'ai découvert ce que c'était que de vraiment s'accrocher à Dieu. J'ai simplement absorbé sa parole. Je lisais sa parole. J'allais vers lui pour trouver des promesses, pour entendre parler de ses miracles, pour être guidé, pour obtenir des directives. Pendant 1 an et demi, j'ai rempli 13 journaux d'écritures et de paroles prophétiques que Dieu m'a données.
Je partais le matin pour le travail et honnêtement, elle était sur son visage en train de prier. Je rentrais à la maison dans l'après-midi 9 heures plus tard, elle était toujours là. Et même si je ne connaissais pas le Seigneur, je savais que Dieu parlait à cette femme. Je savais qu'il se passait quelque chose là-bas. Je savais que quelque chose de plus grand que ce que nous avions était en train de se passer.
Un jour, après une nuit particulièrement mauvaise, je priais le lendemain matin et j'ai dit au Seigneur. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai prié. Je t'attends depuis très longtemps. J'ai dit. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire des valises pour moi et les enfants. Ils rentrent de l'école avant qu'ils ne rentrent du travail. Nous partons. Nous allons retourner dans la ville d'où nous venons, dans laquelle nous vivions. J'avais un très bon travail en entreprise. Ils auraient été ravis de me revoir. J'aurais pu m'occuper de nous tous. Je n'avais pas en tête de quitter David. J'essayais juste de le choquer. Il doit se passer quelque chose, pensais-je. Je dois le choquer pour qu'il comprenne que ce qu'il fait est mal. Je suis donc allée dans la pièce où nous avions rangé nos bagages. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, et quand je suis allée chercher une valise, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit « N'ose pas toucher à cette valise. Vous rentrez dans la maison, vous vous mettez sur votre visage, et vous continuez à prier exactement comme je vous l'ai dit. » J'étais tellement impressionnée par la façon dont Dieu me parlait. Je suis restée là pendant 1 demi-heure et je suis finalement retournée dans la maison et j'ai continué à faire ce que Dieu m'avait dit de faire et vous pensiez que oui, c'est vrai. La semaine prochaine, tout allait changer. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'était toujours mauvais et les choses ont continué à empirer. Mais une fois, environ 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'il y avait un week-end que les couples qui avaient vraiment des problèmes dans leur mariage pouvaient passer un week-end et j'ai eu l'impression que Dieu m'avait parlé et m'avait dit que c'était ça. J'ai donc mis la main sur l'une de leurs brochures. David est rentré du travail ce jour-là et je lui ai demandé timidement et il m'a littéralement jeté la brochure au visage avec des mots choisis et m'a dit de le laisser tranquille. J'ai attendu quelques jours. J'ai fait la même chose avec la même réponse. Quelques jours plus tard, je me préparais pour l'église et j'étais dans la chambre et je m'habillais et le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de lui donner la brochure une fois de plus. Si puissante femme de Dieu, je suis allée dans la salle familiale où il était assis en train de regarder la télévision et de boire du whisky, et j'ai en quelque sorte posé la brochure là et j'ai couru vers la porte. Alors quand je suis rentrée à la maison, il m'a dit
« Je vais faire ce week-end avec vous, mais avec une seule pensée en tête, ai-je dit. Je vais vous prouver que je ne suis pas alcoolique. Ce n'est pas mon problème. C'est vous qui êtes à l'origine des problèmes. Et après ce week-end, je sors d'ici et c'est fini. »
Le lendemain, j'ai appelé pour m'inscrire et ils m'ont dit que nous avions obtenu la toute dernière place, pas un accident. Donc, quand nous sommes allés ce week-end, David était très en colère et ne me parlait pas. Nous sommes allés nous coucher ce soir-là à l'hôtel et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai dit que tu me manquais peut-être que ce n'était pas toi, Seigneur. Eh bien, le lendemain matin, un couple donnait une conférence et nous sommes retournés dans notre chambre. Je suis donc entrée dans notre chambre et j'ai remarqué que c'était très calme. Et je me suis retournée et j'ai regardé David et il se tenait là dans notre chambre d'hôtel avec des larmes qui coulaient sur son visage et il m'a regardé et il a dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. » Et j'ai senti cette joie et cet amour débordant du Seigneur envahir mon cœur et je l'ai regardé et j'ai dit « Chérie, je ne peux pas t'aider, mais je sais qui le peut. » J'ai donc eu le privilège et l'honneur de m'asseoir avec mon mari et de le conduire au Seigneur et de prier avec lui pour qu'il reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais croyez-moi, si vous êtes dans cette situation, peu importe qui le fait, tant que quelqu'un les conduit à Jésus.
Ce qui est intéressant dans tout cela aussi, c'est que c'était finalement à ce moment-là, je n'avais jamais réalisé où Jésus était entré. Je pensais que la vie que j'avais menée, la vie sauvage que j'avais menée, je devrais juste souffrir à cause des mauvaises décisions que j'avais prises. Eh bien, je pensais que c'était là que j'étais. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est la raison pour laquelle Jésus est là pour nous, que lorsque nous confessons nos péchés et que nous nous en repentons, il nous pardonne et nous pouvons aller de l'avant dans une nouvelle vie. C'est incroyable.
Donc, en plus de ce miracle, l'autre miracle est que David n'a plus jamais bu d'alcool après ce jour-là et n'a eu aucun symptôme de sevrage. Dieu a tout simplement enlevé totalement. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Je sais qu'il est un Dieu qui répond à la prière. Par Jésus, nous sommes rachetés pour revenir à tout ce que Dieu a voulu que le mariage soit. Et donc, maintenant, par l'alliance en Jésus-Christ, nous voulions découvrir quel était le plan complet de Dieu. Nous voulions savoir ce que c'était et nous avions donc des amis chers avec qui nous venions d'entrer en relation à ce moment-là. Ils ont dit, « Nous avons un ministère que nous pensons vraiment que vous aimeriez. » Et ils nous ont introduits à ce ministère de deux égaux un et nous sommes venus et nous avions faim. À ce moment-là, nous savions que Dieu était au centre de tout cela, mais nous ne savions pas quoi en faire. Nous avions beaucoup de mauvais schémas de vie, beaucoup de mauvaises façons de penser, beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, des choses dont nous avions besoin pour apprendre à faire la voix de Dieu et pour être guéris. Et Dieu a répondu à toutes les attentes et plus encore que nous aurions pu rêver dans ce ministère et nous sommes simplement reconnaissants, comme nous l'avons dit, d'être appelés de Dieu, de donner cela à autant de couples que possible pour le reste de notre vie.
Si vous ne l'avez jamais fait en couple, c'est un véritable engagement. Parce que si vous vous repentez de votre péché et donnez toute votre vie à Jésus, alors il fera de vous un couple si puissant dans le Seigneur que vous serez étonné. Donc, si vous vous joignez à moi, je partagerai cette prière avec vous. Jésus, je reconnais qu'il n'y a aucun moyen pour moi de gagner le pardon de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu as pris le châtiment que je méritais. Je me repens de mes péchés et je vous demande de me pardonner. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Je te suivrai comme tu me guideras et je renoncerai à mon ancien mode de vie et à l'emprise pécheresse qu'il a sur moi. Je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Je t'aime, Jésus. Je crois que je suis maintenant légalement un membre de votre famille et un résident de votre royaume, Jésus. Tu es mon Seigneur. Et si vous avez dit cette prière avec moi sincèrement, votre vie changera. Comme je l'ai dit, quand j'ai fait cela, je n'ai plus jamais bu d'alcool, et c'était en 1987. Le Seigneur est incroyable. Il est vraiment incroyable.
C'est un témoignage de la vie que nous avons eue et des épreuves que nous avons traversées. Quelques-uns des faits saillants. Respecter l'alliance, c'est quand votre femme est prise à faire son truc dans le monde de l'entreprise et que vous allez toujours chercher les enfants à l'école et que vous préparez le dîner. Respecter l'alliance, c'est quand votre mari détruit vos sentiments pendant qu'il boit avec des mots méchants qui blessent très profondément. Garder l'alliance, c'est quand vous priez et vous continuez à prier et ensuite vous voyez Dieu faire des miracles pour votre mariage. Le respect de l'alliance, c'est lorsque vous vous engagez à faire de votre mariage une priorité en investissant du temps pour vous rapprocher du Seigneur et l'un de l'autre. Garder l'alliance, c'est quand votre maison brûle devant vos yeux alors que vous êtes debout dans l'allée entouré de pompiers au milieu de l'hiver et que vous remerciez Dieu qu'il est avec vous et que vous lui faites confiance pour fournir et stabiliser vos émotions, et que vous ne vous en prenez pas les uns aux autres. Respecter l'alliance, c'est quand votre femme est souvent malade et que les factures médicales s'accumulent. Garder l'alliance, c'est quand votre entreprise dit que nous avons des réductions à faire et que vous en faites partie et que vous allez à Dieu ensemble au lieu de le laisser déchirer votre mariage. Et puis, des années plus tard, nous avons vu la bénédiction dans ce que Dieu avait fait pour pourvoir. Respecter l'alliance, c'est quand vous pouvez vous tenir fièrement et regarder votre fille recevoir son diplôme universitaire et que vous pouvez le célébrer ensemble. Garder l'alliance, c'est mettre de l'ordre dans 37 ans de photos de famille, enfin, et se remémorer les merveilleux souvenirs et les moments difficiles qui vous ont rapprochés du Seigneur et les uns des autres. Garder l'alliance, c'est quand Dieu vous utilise pour aider d'autres couples qui souffrent ou qui ont besoin de grandir et que vous pouvez partager cette joie merveilleuse et sa fidélité. Garder l'alliance, c'est recevoir une carte d'anniversaire de votre fils disant à quel point il est fier de votre exemple de mariage. L'engagement n'est pas basé sur la performance ou sur les circonstances. C'est un engagement durable et contraignant entre vous, votre conjoint et Dieu. C'est un voyage de toute une vie ensemble. Gloire à Jésus.
Cher Père, vous avez fait du mariage une alliance pour la vie entre mari et femme avec vous au centre de ce merveilleux voyage. S'il te plaît, rencontre-nous là où nous sommes et fais-nous entrer dans la plénitude de l'alliance avec toi par Jésus, ton Fils, et les uns avec les autres. S'il vous plaît, enseignez-nous, guidez-nous et couvrez-nous de votre amour dévoilant au nom de Jésus. Amen.